Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Comment prévenir le VIH-Sida en milieu scolaire? La plupart des lycéens ont des relations sexuelles à risque, d'après nos sources, et constituent ainsi une couche vulnérable au VIH-Sida. Le manque d'informations sur la maladie, sur le mode de transmission du Sida est souvent à la base des comportements à risque chez les écoliers, chez les jeunes écoliers. Alors, comment prévenir le VIH-Sida en milieu scolaire? Docteur Félix Efoloko, épidémiologiste, et l'invité du magazine Okapi Service. Docteur Félix, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous parlons aujourd'hui de la prévention du VIH-Sida en milieu scolaire. D'abord, la première question est de savoir comment se présentent aujourd'hui les statistiques par rapport à la maladie en milieu scolaire.
En fait, je voulais d'abord porter un qualitatif. Un qualitatif, mon nom, c'est Dr. Félix Ekofo. Je ne suis pas Félix Efoloko, donc là, c'est Fauteni. Je suis chargé des surveillances épidémiologiques au Programme national de lutte contre le sida. En fait, pour ce qui concerne votre question, il faut le savoir que chaque année, nous faisons des enquêtes qui nous aident à avoir les niveaux de prévalence du VIH au pays. Et en 2011, c'est la dernière enquête que nous avons faite auprès des femmes enceintes, et nous avons une séroprévalence de 3,5% auprès des femmes enceintes et de 2,75% dans la population générale. Alors, s'il faut désagréger toutes ces données-là en tranche d'âge ou en famille, je pense que c'est un exercice qu'il fallait le faire. OK?
Bien. Donc, on retient que les jeunes constituent une tranche d'âge qui est beaucoup exposée.
OK. Je pense qu'il y a les couches de population les plus vulnérables. Et parmi ces couches-là, il y a aussi les jeunes. Parce qu'à l'époque, quand le VIH commençait, on avait beaucoup plus d'adultes que des jeunes. Mais pour le moment, je pense que la tendance a été renversée et que nous constatons beaucoup plus de jeunes qui sont affectés que les adultes.
Et quelles sont les causes? C'est par manque d'informations ou il y a d'autres raisons qui font qu'aujourd'hui les jeunes soient beaucoup plus infectés?
En fait, vous savez, le VIH, quand nous le parlons, nous ne voyons pas seulement les milieux urbains. Nous voyons aussi toute la République, il y a aussi les milieux ruraux là-dedans. Et il faut savoir que les milieux ruraux constituent 70% de la population du pays, ce qui fait que l'information, bien qu'elle circule dans les milieux les plus urbanisés, mais je pense qu'il y a aussi un problème en ce qui concerne la rendue de l'information au niveau du milieu rural et surtout dans les endroits ou les lieux où ils fréquentent. Donc je pense que le milieu scolaire aussi en est un, ce qui fait que je pense qu'il y a un problème d'information par rapport à cette catégorie de personnes.
Voilà. Aujourd'hui, comment prévenir le VIH-Sida ou d'abord lutter contre le sida dans ces milieux et qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir pour ceux-là qui ne sont pas encore affectés par la maladie?
En fait, la meilleure façon de prévenir au niveau scolaire, c'est d'abord donner l'information. Mais comment nous pouvons donner cette information? Alors, la vraie information, parce que vous savez, l'information, quand ça transite d'une personne à autre, ça subit toujours des modifications dans la communication. Alors, ce qui fait que s'il faut bien se prévenir contre le VIH, il faut apporter l'information en milieu scolaire. Notre cheval de bataille ou notre souci majeur, c'est de voir intégrer les programmes dans l'exercice de formation des élèves, que ce soit en milieu primaire ou secondaire, un programme ou des enseignements sur la lutte contre le VIH. Même à l'université, je pense que nous sommes en train de nous battre. Vous savez que dans notre pays, les programmes subissent parfois des modifications, mais les programmes en GER, c'est les programmes UNES, c'est les programmes les plus anciens. Et ce qui fait que tous ceux qui viennent, parce que le VIH a une vingtaine d'années, je pense aussi, mais pour intégrer cette activité ou ces programmes de leçons, on les donne parfois dans les cours d'éducation sanitaire, mais c'est pas un programme vraiment nourri. Et nous avons toujours souhaité qu'il y ait un cours spécifique qui parle de la lutte contre le VIH sida dans notre pays parce que comme vous savez, l'épidémie est généralisée. Mmh. Et dans d'autres pays, vous savez qu'il y a tout un ministère qui s'occupe de la lutte contre le sida. Si nous parvenons à avoir ces programmes-là, ces cours vraiment identifiés, ça va nous aider à pallier à beaucoup de situations.
Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour intégrer ces cours dans les systèmes éducatifs congolais?
Ok, je pense que ça demande des démarches qui demandent un niveau un peu plus élevé. Ce qui fait que, vous voyez, la lutte contre le VIH est l'apanage du ministère de la Santé. Et les programmes d'enseignement, que ce soit supérieur et universitaire, que ce soit secondaire et primaire, ça dépend des autres ministères. Donc, il faut vraiment qu'il y ait cette coordination au niveau de ces ministères-là pour avoir l'opportunité et de faire les programmations les plus nourries.
Voilà. Et alors, à part ce cours sur l'éducation, sur le VIH-SIDA, quels sont les autres, qu'est-ce qu'on doit faire d'autre pour lutter contre cette pandémie en milieu scolaire?
Ok, je pense que la méthode qu'on utilise généralement, ce sont des sensibilisations, mais qui sont que des sensibilisations ponctuelles. Donc, on organise des journées de sensibilisation auprès des jeunes, que ce soit à l'école, que ce soit au quartier, que ce soit dans les milieux. Mais nous pensons que, en fait, cette sensibilisation apporte quand même des fruits, mais qui ne sont pas vraiment très efficaces, parce que parfois ça vient quand vraiment tout le monde n'est pas là, ça vient quand tout le monde n'a pas cette concentration et il n'y a pas une forte motivation, parce que pour les élèves, ce qui les concerne le plus, ce sont des points. Et souvent, quand on les appelle dans une soirée, une journée récréative, une journée éducative, je pense souvent ils ont des idées ailleurs. Donc, il faut aussi que les enseignants soient suffisamment outillés en cette matière pour que ça soit la matière journalière, les matières au quotidien, afin qu'ils puissent donner ces enseignements auprès de leurs élèves.
Bien. Comment prévenir le VIH-SIDA en milieu scolaire? Au Capi Service, il reçoit aujourd'hui Dr. Félix Ekofo, chargé des surveillances épidémiologiques du VIH-SIDA. Vous avez des questions, des préoccupations? Appelez-nous au 081-890-63-94. Vous pouvez également nous faire parvenir vos SMS au 081-711-50-01.
Radio au Capi.
Sur DSTV,
au Capi.
Canal 167.
Clément Mouya nous appelle de Mbujimayi et Maveki Sambika de Kananga. Clément, bonjour.
Oui, bonjour, Jody.
En vous écoutant.
Oui, je voulais dire, est-ce un peu de contribuer dans cette émission en vue d'éradiquer les sida en milieu scolaire? Dans le programme national, on a beaucoup plus donné l'importance à l'éducation, à la vie, pas à la religion en milieu scolaire. Donc, les élèves qui n'ont même pas une maturité à pouvoir apprendre l'éducation à la vie, donc ils interprètent mal cette éducation à la vie et ils veulent pratiquer ce qui est impraticable avant l'âge. Et facilement, ils s'adonnent à ce qui n'est pas bon. Au lieu de multiplier peut-être des séances de religion à pouvoir apprendre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et ils se mettent à faire de bons choix. Je voudrais que, comme les ministères essaient surtout de protéger les filles contre les violences sexuelles, et quand on continue à apprendre à vulgariser ce qui est invulgarisable vis-à-vis des enfants qui n'ont pas encore une maturité, ne voyez-vous pas que c'est réveillé un chat qui dort? Et les enfants qui n'ont pas cette culture dans leur tête, vous voulez maintenant aller vulgariser ce qu'ils ne connaissent pas, donc ils veulent pratiquer ce qu'ils n'ont pas connu. Trouver un milieu scolaire, on dit aux enfants l'usage de prudence et autres. Ne voyez-vous pas que c'est conduire les enfants vers le chemin qu'ils n'ont pas dans leur tête? Au lieu peut-être qu'on multiplie les séances d'apprentissage, peut-être de la parole de Dieu qui est interdite, donc ces histoires-là. Voilà un peu ce que moi je trouve un peu que l'on peut faire un milieu scolaire que de vulgariser et donner la mauvaise interprétation des choses aux enfants.
Merci Clément. Mave Kisambika de Kananga, bonjour. Mave, bonjour. Il n'est plus en ligne, désolé. Alors, docteur Félix, si vous avez suivi la question de Clément, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
En fait, je remercie Clément pour son intervention. Je pense qu'il a donné beaucoup plus de contributions que de questions. Et l'unique question que j'ai suivie là, c'est en rapport avec la prévention, avec l'utilisation des prudences ou des condoms. Je pense qu'en milieu scolaire, on ne peut pas privilégier l'éducation en rapport avec l'utilisation des préservatifs ou des condoms. Je pense qu'il y a plusieurs voies, comme vous le savez, il y a plusieurs voies qui sont connues pour la prévention du VIH. Il y a d'abord pour la voie sexuelle, et dans la voie sexuelle, il y a aussi plusieurs méthodes qu'on utilise là-bas. Il y a d'abord la méthode d'abstinence, ce qui est vraiment recommandé aux enfants. Aux élèves. Donc, il faut vraiment beaucoup plus centrer votre éducation, votre matière, en matière d'abstinence pour que les choses marchent. Et les deux autres méthodes, c'est-à-dire la bonne fidélité et l'utilisation des condoms, ne sont données qu'à d'autres personnes qui sont beaucoup plus évoluées, les personnes adultes qui sont déjà actifs sur les plans sexuels. On leur demande de faire une bonne fidélité parce qu'ils ont déjà fait. On leur demande aussi, au cas où la bonne fidélité n'était pas, on l'utilise pour des rapports occasionnés de condoms. Je pense pour les élèves, nous allons mettre beaucoup plus d'accent en ce qui concerne l'abstinence. Et ce qui concerne les églises, je pense que c'est ce qui est vraiment recommandé. Je pense que les églises, les écoles, et si vous voyez des écoles officielles qui n'utilisent pas les confessions religieuses, les études là, les écoles là, n'acceptent pas, ne donnent pas des enseignements en matière religieuse. Donc, nous pensons aussi que ces écoles-là ont droit à avoir toutes ces matières. Mmh. En plus, il y a aussi d'autres églises qui n'ont jamais voulu attendre de parler même du VIH parce que c'est un tabou, c'est un problème très réel. Je pense qu'il faut arriver à atteindre ce niveau-là pour porter l'information aux enfants.
Oui, et Clément déplore le fait qu'il parle du cours de l'éducation à la vie qui est souvent mal interprété par les élèves. On donne ces cours-là à des élèves qui sont encore immatures. C'est une façon de les pousser à aller expérimenter des choses qu'ils ne comprennent pas.
Le problème, c'est quand porter l'information à une personne. On a déjà vu, il y a des parents qui se font l'hypocrisie de ne pas donner l'information à leurs enfants, mais alors que les enfants savent déjà beaucoup de choses. Les enfants apprennent beaucoup de choses entre eux. Donc il faut savoir à tel âge l'enfant a déjà l'âge de puberté, il faut déjà lui parler de quelque chose, parce que s'il est surpris d'apprendre de ce sujet-là ailleurs, même les parents, au niveau de la maison, il faut savoir parler, il faut dialoguer avec les enfants pour savoir ce qu'ils savent. Et si vous dialoguez bien avec les enfants, ils peuvent vous dire, ils peuvent vous soulevez des questions que vous pensez ne pas être à leur portée. Donc, il faut vraiment parler avec les enfants et utiliser aussi l'âge, parce qu'il ne faut pas penser toujours qu'à 15 ans, 16 ans, à 13 ans, 14 ans, les enfants sont toujours mineurs. Ils n'ont pas l'information. Je pense à chaque année, l'enfant a des facultés évoluées par rapport à ses attitudes.
Joël Bongol nous appelle de Kinshasa, depuis l'Unikin. Joël, bonjour.
Bonjour Radio Okapi et meilleurs voeux à toute l'équipe de Okapi Service.
Merci Joël et meilleurs voeux à tous les camarades étudiants sur la colline Inspirée. On vous écoute.
Oui, je pose la question de savoir si entre les enseignants et les élèves, qui plus doivent être sensibilisés pour éviter les sida dans les milieux scolaires.
Entre enseignants et élèves.
Ouais.
Alors, quand vous posez cette question, c'est par rapport à quoi Joël? Vous avez un témoignage, vous avez des faits qui vous poussent à poser cette question?
Oui, parce que je trouve que de part et d'autre, et les enseignants et les élèves sont exposés parce que chacun de ces catégories de personnes ont une part de responsabilité.
Voilà. Merci, docteur Félix.
Ok, je pense qu'on a abordé ça. L'enseignant ne peut qu'être quelqu'un qui a plus de connaissances que l'élève, en fait. Ce qui fait qu'il faut donner d'abord la matière à l'enseignant, parce que si l'enseignant ne sait pas, il va déformer. Il y a aussi des élèves qui sont beaucoup plus instruits que les enseignants. Donc, il faut donner beaucoup plus d'informations à l'enseignant. Et de l'enseignant, on aura des informations qui sont de bonne qualité au niveau des élèves. Je pense que Joël est en train de voir les aspects au niveau de l'université où on trouve les élèves qui sortent avec les enseignants ou les enseignants qui sortent avec les élèves. Donc, c'est aussi une matière à traiter. Je pense que en matière du VIH, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas enseignant et élève. Tout le monde est exposé de la même façon.
Voilà. Comment prévenir le VIH-Sida en milieu scolaire? Hachem Djounjou nous appelle depuis Siro. Bonjour.
Allô?
Allô, bonjour Hachem.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question?
Oui, j'ai une question à poser à l'invité, mais avant d'y arriver, j'ai une petite question. Parce que des fois, on voit les gens qui viennent souvent à l'école, ça se disait, je laisse, construire le VIH SIDA. Et après, dès qu'ils terminent, c'est déjà la distribuer de quoi, des préservatifs aux élèves. Et c'est ça que je voulais poser à l'invité. Est-ce que c'est vraiment normal de distribuer des préservatifs aux élèves?
Ah, voilà, docteur Félix.
Je pense que ce n'est pas conseillé. C'est pas conseillé parce que la méthode la plus demandée aux élèves, c'est l'abstinence. Je pense que distribuer les préservatifs aux élèves n'est pas quelque chose de plus riche par rapport à... On n'amène rien aux élèves. Au contraire, on les demande, on les invite à faire quelque chose que des fois ils ne le font pas.
Oui. Mais d'après certains, il y a des élèves qui ont déjà eu plusieurs expériences sexuelles, même à très bas âge. Alors, vaut mieux prévenir que guérir.
En fait, l'information doit être portée, mais il y a aussi des niveaux d'études qu'il faut évaluer. Donc, si vous allez en première CO, en deuxième primaire ou en deuxième CO, je pense qu'il ne faut pas toutes ces matières-là. Mais par contre, si vous êtes au niveau terminal, cinquième, sixième, je pense que la plupart des élèves ont déjà cette information. Et parmi eux, il y en a déjà ceux qui en utilisent. Donc, je pense que si vous êtes à un niveau plus élevé, il n'est pas exclu pour que vous puissiez. Parce que si vous faites les enseignements des maths où vous mettez les élèves des premières primaires et des premières CO et des sixièmes des humanités au même endroit, l'enseignement ne sera pas le même. C'est pour cela qu'on conseille pratiquement que ce soit un enseignement gradué, c'est-à-dire qu'à chaque niveau qu'on apporte une information adaptée. Et pour ce qui est des élèves de 5e et 6e des humanités, je pense que pour eux, même si on apporte les préservatifs, ça ne pose pas de problème parce que s'ils ne l'utilisent pas, ils peuvent apporter l'information à d'autres personnes. Et la personne touchée peut-être pourrait avoir besoin des préservatifs que l'élève peut lui offrir.
Voilà. Et alors, docteur, quelles sont les raisons qui font que de plus en plus des lycéens, les élèves ont des relations sexuelles à risque?
En fait, maintenant là, au milieu scolaire, il y a beaucoup plus, il y a beaucoup de facteurs. D'abord, le premier facteur, c'est la pauvreté. Vous savez, il y a beaucoup d'élèves en milieu rural où les parents n'ont pas de moyens. Ils sont responsables, les élèves là sont responsables. Au moment où ils sont responsables, ils ont tous les moyens pour chercher l'argent. Ils utilisent tous les moyens, entre autres, les corps humains pour avoir l'argent. Et là, ça pose des problèmes parce que quelqu'un qui cherche l'argent, et quand on le fait en échange, ça peut être aussi le corps. Et je pense à ce niveau-là, ça pose des problèmes très sérieux. Il y a un autre facteur, c'est la vente des points. Il y a des enseignants-là, quand on est dit, on dit bien que les enseignants pensent qu'ils sont exemptés parce qu'ils sont enseignants. Mais pour la plupart des cas, ce sont les enseignants qui sont aussi plus touchés. Parce qu'un enseignant qui vend des points au profil des sexes, je pense qu'à ce moment-là, il a beaucoup plus de chances d'attraper les VIH que les autres, parce qu'il suffit seulement un des enfants ou un des élèves, ou alors, parce qu'à ce moment-là, il ménage et les élèves et les gens de la cité. Une femme qui l'a contacté à la cité et le VIH, il peut être aussi lui à ce moment-là un facteur de distribution du VIH, et pendant qu'il aura des rapports sexuels avec les élèves, ça sera encore très difficile. Et surtout, vous savez, un élève a beaucoup plus peur de son enseignant. À ce moment-là, il ne veut pas exiger à ce que l'enseignant puisse utiliser les préservatifs, et ça s'est fait au choix de l'enseignant. C'est à ce moment-là qu'il y a trop de risques par rapport à ses élèves, et là, c'est une éducation qui concerne tout le monde par rapport à cette situation.
Freddy Kabamba nous appelle de Lubumbashi au Katanga. Vous voulez également participer? Composez le 081-890-63-94.
Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaire, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre service de la Radio de la Paix.
Comment prévenir le VIH-Sida en milieu scolaire? Docteur Félix Ekofo, chargé des surveillances épidémiologiques du VIH-Sida, est l'invité d'Okapi Service. Nous avons un auditeur en ligne depuis Lubumbashi au Katanga. Freddy Kabamba, bonjour.
Oui, bonjour, la radio Kapi.
On vous écoute.
Avant de passer à la question, j'ai une petite préoccupation.
Oui.
Souvent, moi, ce que moi, je suis en train de voir, ce qui est mal, c'est notre gouvernement. Notre gouvernement, il voudrait d'abord, chaque mois, même pendant 2 mois ou 3 mois, il fasse tester les enfants qui sont au milieu scolaire. Parce que les enfants qui sont au milieu scolaire, vous voyez les enfants, ce qu'on est en train de prendre, ces maladies, souvent, même souvent, vous voyez, il est en train de s'engrosser même. Parce que c'est par manque de moyens des parents. Parce que si un parent n'a pas de moyens, un enfant peut aller faire ce qu'il fait. C'est ce qui provoque les maladies et tout comme ça. Et une question que je voudrais poser à notre invité, vous trouvez à peu près un enseignant, il est en train de sortir avec un enfant de la classe. Est-ce que c'est normal? Maintenant, l'enfant de la classe, il est en train encore de sortir avec son collègue. Mm-hmm. C'est ce qui provoque de telles maladies et tout comme ça. C'est que moi, je voudrais parler. Merci.
Merci Freddy pour cette contribution. Akilimani nous appelle de Kindu au Maniema. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Akilimani.
Oui, moi, c'est Akilimani qui canne depuis Kindu. Avant de poser ma question à l'invité, je voudrais d'abord adresser mes condoléances à toute la population de Kasese et ses débats, mais en particulier. OK.
Oui, on vous écoute, allez-y.
OK, ma première question est que à partir de quelle classe faut-il commencer avec l'apprentissage de l'éducation à la vie? Ma deuxième question, dans d'autres écoles rurales, par exemple, on ne donne pas cette matière aux élèves pour crainte que beaucoup d'enfants ne se basent pas des problèmes sexuels parce que trop d'enfants, au lieu de suivre la matière, ils basent surtout sur les problèmes sexuels étant des mineurs. Maintenant, que faut-il faire pour que ces enfants soient informés de la prévention des VIH-SIDA? C'est ça été mes questions pour notre invité.
Merci Akilimani. Docteur Félix.
Ok, je okay. pense pour ce qui concerne l'éducation à la vie, à ce qui est des chances, donc je sais que l'éducation se donne à différents niveaux d'âge, même à l'école primaire, on montre aux enfants comment se laver les mains avant de manger, on montre aux enfants comment se vêtir, comment être propre, comment entretenir l'environnement. Je pense que tout ça, ça se donne à l'école primaire. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, il faut savoir aussi varier les sujets. C'est pour cela qu'à un âge beaucoup plus avancé, il faut lui parler aussi du VIH. Au départ, d'abord, donner l'information par rapport au virus, donc à l'existence du virus et à la maladie, donc le sida. Et puis, en plus, savoir comment prévenir. Et à leur niveau, je pense qu'il faut faire la part des choses. À quel niveau ils ont, quel âge ils ont, et puis à quel niveau. Pour ce qui concerne l'éducation ou alors le VIH en milieu rural, où il dit que les classes, on ne donne pas parce qu'ils ont peur à ce qu'ils donnent, je pense que c'est aussi un problème dangereux. Parce que c'est beaucoup plus dans des villages que les enfants sont exposés. Ils les font à tout niveau, c'est-à-dire dans la forêt, ils les font sur la cour de la route de l'école, ils les font là où ils vont chercher de l'eau potable, ils les font n'importe où. Donc vraiment, ne pas porter l'information à cet enfant-là, à cet élève, est une faute grave. Et ne pas dire que les enfants ne font pas les rapports sexuels, je pense que c'est aussi une autre faute. Ce qui fait que, selon ma proposition, je pense qu'il n'y a pas de milliers, il ne faut pas donner l'information seulement aux milliers humains, mais il faut aussi les concentrer beaucoup plus là où il y a des personnes qui sont exposées, notamment en milieu rural maintenant, avec 70% des personnes qui y habitent.
Oui, alors, docteur Félix, vous avez dit l'éducation sexuelle doit être donnée, c'est en fonction des niveaux, en fonction des classes, mais d'après certaines informations, avec la dépravation des mœurs qu'on remarque aujourd'hui, il y a même des mineurs, les élèves de première, deuxième année, qui ont déjà des expériences sexuelles, qui fréquentent les boîtes de nuit, les bars et autres, 13-14 ans, la tranche d'âge varie entre 13-14 ans. Alors, par rapport à cette nouvelle réalité, qu'est-ce qu'il faut faire?
Bon, il y a cette situation-là. Il faut aussi se situer par rapport aux villes, par rapport à l'endroit où vous êtes. Il y a des endroits où vous êtes dans les villes minières, là où on exploite des mines. Et je pense que ce sont des villes-là où il y a beaucoup plus d'activités sexuelles et les enfants s'exposent très tôt. Mais il y a des endroits où vous trouvez que les enfants sont bien protégés, ils sont là, mais je pense que pour ce qui me concerne, ce sont des histoires à voir au cas par cas. Mmh. Et pour ce qui concerne l'éducation, moi je dis bien, l'éducation à la vie doit être donnée à tout âge. C'est-à-dire même en première, primaire, il faut les donner, mais il faut savoir comment varier les sujets par rapport au comportement des enfants.
Et je pense que M. Freddy a donné une contribution par rapport aux enseignants qui s'adonnent au rapport sexuel aux élèves. Je pense que ça aussi, il faut le dire. C'est pour cela que nous avons dit qu'il faut centrer aussi l'éducation, cette éducation-là, avant tout chez les adultes. Et ce qui fait les enseignants, s'ils ont déjà un programme bien établi, une formation bien établie, des modules bien adaptés par rapport à leur enseignement, je pense qu'on ne posera pas de problème pour qu'ils puissent être d'abord lui-même être informé et avoir tous les risques par rapport à ce qu'il fait avant de commencer à faire prévenir les autres.
Bien, merci Dr Félix Ekofo. Je rappelle que vous êtes chargé des surveillances épidémiologiques du VIH-SIDA. Merci d'avoir répondu à nos questions et à la prochaine.
Non, je voulais... Enfin, allô?
Oui, allez-y.
Je voulais dire un petit non. Je sais que nous sommes du programme national de lutte contre le SIDA.
Mmh.
Et maintenant, nous avons un petit problème. Nous avons perdu l'un des nôtres. Notre directeur est décédé la semaine passée à Bruxelles. Je pense que nous profitons pour informer tout le monde que le corps de notre directeur rentre. Donc, le rapatriement va se faire le mercredi.
Mmh.
Et le corps sera exposé au programme national de lutte contre le SIDA le jeudi de 14h à 16h avant de l'amener là où il y aura des vieilles mortières. Donc, nous pensons que tous les partenaires, tous les amis qui accompagnent la RDC à travers le programme national de lutte contre le SIDA dans cette opération seront avec nous le mercredi là pour donner les derniers adieux à notre directeur du programme, le docteur Okeng, qui venait nous quitter la semaine passée à Bruxelles.
Bien, nos condoléances, docteur Félix. À la prochaine.
Merci beaucoup.